Non mais regardez-moi ces ploucs qui lisent. Ça va là, t'arrêtes de lire, oui? Non mais le dernier livre que t'as lu là, c'était quoi? Moi j'ai pas le temps de lire. Tu sais lire toi? Non, je me rappelle plus trop de l'histoire mais c'était pas mal. Va te faire lire!
Chut, écoute. L'émission littéraire sur Ondes Courtes.
Sorcière. La puissance invaincue des femmes, Mona Chollet. Par bien des aspects, je suis stupide, en toutes circonstances et depuis toujours, s'il s'agit de poser une question idiote ou de faire une réponse totalement à côté de la plaque à une question ou de formuler un commentaire absurde, à tous les coups je suis la femme de la situation. Il m'arrive de surprendre un regard incrédule posé sur moi et de deviner ce que cette personne est en train de se dire. Pourtant, il paraît qu'elle écrit des livres. La vache, ils engagent vraiment n'importe qui au monde diplomatique. J'en retire le même sentiment de honte que si j'avais trébuché et effectué un vol plané avant de m'écraser au sol sous les yeux d'une assemblée ébahie. Chose que par ailleurs je suis parfaitement capable de faire aussi. Cet aspect de moi-même m'exaspère d'autant plus qu'il s'obstine à échapper à tout contrôle. En général, une demi-seconde après que les mots sont sortis de ma bouche, je partage déjà la consternation de mon ou de mes interlocuteurs. Sauf que c'est trop tard. C'est plus fort que moi et, au bout de presque 45 ans de ces coups d'éclat réguliers, je suis arrivée à la conclusion que je devais me résigner à vivre avec. Mais ce n'est pas facile. Pour une part, cette bêtise tient sans doute à des caractéristiques personnelles. Un manque total de sens pratique lié à un déficit d'expérience dramatique. Une attention un peu flottante, un niveau de distraction qui fascine tous les observateurs et qui augmente encore quand je néglige de mettre mes lunettes. Le brouillard visuel accroissant le brouillard mental dans lequel j'évolue. Une timidité qui me fait vite paniquer et qui ne favorise pas les bons réflexes. Une disposition générale qui me rend mieux capable de saisir et d'analyser les éléments d'une situation avec un maximum de recul plutôt que sur le moment. Pour le dire simplement, j'ai l'esprit lent. Mais je crois qu'il y a aussi une forte dimension genrée dans ma stupidité. Je suis impulsive, émotive, parfois naïve. Je suis un cliché sexiste ambulant, une authentique tête de linotte. L'archétype de la gonzesse irrationnelle. Je suis nulle dans tous les domaines où les femmes sont réputées nulles. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Dans ma vie professionnelle, j'entretiens des relations de forte défiance réciproque avec l'économie et la géopolitique. Soit des bastions masculins caractérisés au plus près des leviers du pouvoir. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'intelligence n'est pas une qualité absolue, mais qu'elle peut connaître des variations spectaculaires en fonction des contextes dans lesquels nous nous trouvons et des personnes que nous avons en face de nous. Les circonstances et les interlocuteurs ont le pouvoir de révéler ou démonter des parties très diverses de nous-mêmes, de stimuler ou de paralyser nos capacités intellectuelles. Or, la société assigne aux femmes et aux hommes des domaines de compétences très différents et très différemment valorisés. De sorte que les premières se retrouvent plus souvent en situation d'être bêtes. Ce sont elles qui courent le plus de risques de se révéler déficientes dans les domaines prestigieux, ceux qui sont censés compter vraiment. Tandis que ceux où elles auront développé des aptitudes seront négligées, méprisées ou parfois carrément invisibles. Elles auront aussi moins confiance en elles. Notre nullité est une prophétie autoréalisatrice. Parfois je dis des âneries, par ignorance, mais parfois aussi, j'en dis parce que mon cerveau se fige, parce que mes neurones s'égayent comme une volée des tourneaux et que je perds mes moyens. Je suis prisonnière d'un cercle vicieux, je sens la condescendance ou le mépris de mon interlocuteur, alors je dis une énormité, confirmant ainsi ce jugement à la fois aux yeux des autres et aux miens. L'interlocuteur en question pourra être aussi bien un confrère journaliste que le réparateur du lave-linge, lequel à peine arrivé me pose une question sur le fonctionnement de l'appareil et, avant même que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche pour répondre, la répète d'un ton brusque et impatient, comme s'il était fortement conscient d'avoir en face de lui une personne pas très intelligente. Le sexisme se manifeste à tous les bouts de l'échelle sociale, vous offrant en un délicieux stéréo le rappel permanent de votre débilité profonde. Et il faut que je me prépare pour mes vieux jours, car apparemment, la seule chose qui existe de plus idiot qu'une femme, c'est une femme âgée. Après des siècles où les hommes de science ou de religion, les médecins, les hommes politiques, les philosophes, les écrivains, les artistes, les révolutionnaires, les amuseurs publics ont martelé sur tous les tons la bêtise congénitale et l'incompétence intellectuelle sans remède des femmes, en les justifiant au besoin par les plus folles élucubrations sur les défaillances de leur anatomie, il serait très étonnant que nous ne nous sentions pas légèrement inhibés. Dans une litanie saisissante résumant les discours tenus au fil du temps sur les femmes, l'autrice américaine Susan Griffin écrit « Il est décidé que le cerveau des femmes est défectueux, que les fibres de leur cerveau sont faibles, que, à cause de leurs règles, l'apport de sang au cerveau est affaibli. Tout le savoir abstrait, le savoir aride, prévient-on, doit être abandonné à l'esprit solide et industrieux de l'homme. Pour cette raison, ajoute-t-on, les femmes n'apprendront jamais la géométrie. Il existe une controverse pour savoir si, oui ou non, il faut leur apprendre l'arithmétique. À une femme qui possède un télescope, il est suggéré qu'elle s'en débarrasse et qu'elle arrête de chercher à savoir ce qui se passe sur la Lune. Les considérations sur l'esprit solide et industrieux et l'interdit jeté sur la géométrie sont dues à Emmanuel Kant, tandis que la référence au télescope vient d'une tirade de Chrysale à Philaminte dans Les femmes savantes de Molière. « Vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville, moté pour bien faire du grenier des séants, cette longue lunette à faire peur aux gens. » Et sans brimborion dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. » Les deux citations ne sont pas vraiment équivalentes, puisque dans le second cas, c'est un personnage qui parle, et il n'est pas question de refaire ici le débat sur la misogynie de Molière. Pour autant, certaines images semblent avoir la vie dure. Alors que je suis plongée dans ces lectures, une publicité pour un site de vente en ligne montre une vue en coupe d'un cerveau de femme où sont inscrites ses pensées. L'astronomie, c'est pas trop mon truc, mais l'anatomie de mon voisin, oui. Il s'agit de vendre un télescope à 49,99€. On finit par intégrer ce regard sur soi, cette évidence de sa propre inanité, de sa propre incompétence. Lorsque dans la rue des touristes tout à fait aimables et innocents me demandent un renseignement, au moindre doute, je leur réponds qu'il serait plus prudent de s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais en général, dès qu'ils se sont éloignés, je me rends compte que j'aurais très bien su leur indiquer le chemin. Sens de l'orientation. Économie. Dès qu'un terme de ce genre se met à clignoter dans mon esprit, c'est la panique. Il y a quelques années, des chercheurs de l'Université de Provence ont proposé à deux groupes d'élèves de l'école primaire de reproduire de mémoire une figure géométrique assez compliquée. À l'un des groupes, ils ont annoncé un exercice de géométrie. À l'autre, un exercice de dessin. Dans le premier groupe, les filles ont réussi moins bien que les garçons. Dans le second, libérées de l'ombre terrifiante des mathématiques et n'anticipant donc pas leur propre échec, elles ont réussi mieux qu'eux. Vers la fin du lycée, j'ai eu moi aussi une occasion de m'affranchir brièvement de ces limitations paralysantes que j'avais fini par croire immuables. J'ai eu une professeure passionnée par sa discipline, aussi patiente que bienveillante, très loin des cow-boys suffisants auxquels j'étais habituée. Chose inconcevable, grâce à elle, 2 ans avant la maturité, l'équivalent suisse du bac, je suis presque devenue bonne en maths, et j'ai eu une note tout à fait honorable à l'examen. À l'oral, après avoir mené ma démonstration sans accroc, j'ai donné la bonne réponse à une question un peu piégeuse, et elle s'est exclamée « Bravo !» C'était il y a 25 ans, et je n'ai jamais oublié ce « bravo », si improbable pour moi devant un tableau noir couvert de chiffres. Ma stupidité n'était pas une fatalité. Vertige. En 2014, l'Iranienne Mariam Mirzakhani a été la première femme à obtenir la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. À côté des disciplines où j'étais perdue, il y en a toujours eu d'autres dans lesquelles je me sentais à l'aise, qui me donnaient des motifs de fierté. Au lycée, après avoir failli me cracher à cause des sciences, j'ai eu le prix de version grecque à la maturité. Mais j'avais intégré l'idée selon laquelle il s'agissait de domaines subalternes, ce qui justifie ma position de gentil petit satellite intellectuel, condamné à tourner indéfiniment autour de la planète du vrai savoir, en égrenant sa jolie musique flûtée. Peu à peu, toutefois, j'ai commencé à interroger cette vérité communément admise. Aujourd'hui, certaines de mes incompétences m'inspirent toujours un regret sans mélange. Ainsi, je suis très loin d'éprouver pour les choses pratiques le dédain dont on me soupçonne parfois, comme tous les intellos. En tant que lectrice, par exemple, j'étais tombée amoureuse du monde diplomatique pour ses textes littéraires et philosophiques, ses regards sur l'époque et la société, ses engagements, ses signatures de grands intellectuels, son iconographie sophistiquée et décalée. J'y voyais une sorte de journalisme poétique qui me plaisait beaucoup. Quand j'ai commencé à y travailler, j'ai été déconcertée par la passion de nombre de mes collègues pour les chiffres, les cartes, les tableaux, toutes choses dont j'avais à peine remarqué la présence jusque-là. Non seulement j'y reste hermétique, mais les rares fois où je me penche sur eux, et où un éclair de compréhension zèbre les ténèbres de mon cerveau, je me sens en rien comblée dans mon désir de connaissance. Je ne nie pas leur utilité ou leur qualité, ni le fait qu'ils sont très appréciés d'une partie de nos lecteurs, mais il existe aussi des gens, dont je suis, à qui ils ne parlent pas et qui préfèrent d'autres modes d'appréhension du monde. Au début, j'en avais honte, mais désormais je l'assume. D'une manière générale, en vieillissant dans le domaine du savoir, je vois de mieux en mieux les limites, les angles morts, les faiblesses de ceux qui me prennent de haut. Je conteste, au moins en mon fort intérieur, à la fois la valeur absolue de ma stupidité face à eux et la valeur absolue de leur intelligence face à moi. Alors que, pour eux, elle va de soi. Ce qui se comprend. Pourquoi s'encombreraient-ils de ces subtilités alors qu'ils ont la chance d'être du bon côté de la barrière de l'intelligence? Voilà peut-être pourquoi j'écris des livres. Pour créer moi-même des lieux où je suis compétente. Enfin, j'espère. Pour faire émerger des sujets qui n'étaient parfois même pas constitués ou identifiés comme tels, en affirmant leur pertinence, leur dignité. Quand on parle de la place des femmes à l'université, on évoque en général la proportion d'étudiantes ou de professeurs, ou la présence quasi exclusive d'hommes dans certaines filières. On déplore le sexisme, de la part des étudiants et des professeurs, ou le manque de confiance en elles qui empêche les filles de choisir la physique ou l'informatique. Mais on oublie trop souvent, me semble-t-il, de s'interroger sur le contenu même de l'enseignement, en négligeant le fait que, pour des jeunes femmes, entrer à l'université implique d'assimiler un savoir, des méthodes et des codes qui, au fil des siècles, se sont constitués très largement sans elles, quand ce n'est pas contre elles. Si vous pointez ce problème, on vous soupçonnera aussitôt d'essentialisme. Voudriez-vous suggérer que les femmes ont un cerveau différent? Qu'elles ont une manière typiquement féminine d'aborder le savoir? Que si elles avaient eu leur mot à dire, elles auraient ajouté des petits cœurs dans les formules mathématiques, peut-être? Or, l'accusation d'essentialisme est réversible. C'est précisément parce que les femmes et les hommes ne constituent pas des essences figées dans un espace abstrait, mais deux groupes qui entretiennent des relations prises dans le mouvement et les vicissitudes de l'histoire, qu'on ne peut pas considérer le savoir universitaire comme objectif et le doter d'une valeur absolue.